Forum de Sens 2012, organisé par la famille missionnaire de Notre-Dame sur l'encyclique Fides et Ratio. Troisième partie, le magistère et la philosophie. Septième enseignement, le discernement du magistère comme service diaconie de la vérité. Donné par sœur Edith.
Le magistère et la philosophie. Alors, on continue à parcourir l'encyclique. Et donc, moi, je vais essayer de synthétiser les paragraphes 49 à 56, intitulés, comme sous-partie, « Le discernement du magistère comme service de la vérité » ou « Diaconie de la vérité ». Alors d'abord, on va commencer par une citation de l'évangile de Saint Jean que nous connaissons tous bien. Quand il viendra, lui, l'esprit de vérité, il vous guidera vers la vérité tout entière. On peut dire que c'est en s'appuyant sur cette parole de Jésus que l'Église, parce qu'elle est animée par l'Esprit Saint, peut prétendre guider les hommes vers la vérité, sans qu'il y ait pour autant orgueil et présomption de sa part, de la part de l'Église. C'est tout simplement la mission que Dieu lui confie. Aussi Jean-Paul II écrit-il au début de l'encyclique, je cite, « Parmi les différents services que l'Église doit offrir à l'humanité, il y en a un qui engage sa responsabilité d'une manière tout à fait particulière, c'est la diaconie, donc le service de la vérité. » Donc l'Église est engagée à servir la vérité. Fin de citation. Cependant, l'Église n'entend pas pour autant avoir le monopole des chemins d'accès à la vérité. Tout au long de l'encyclique, Jean-Paul II souligne combien la recherche philosophique peut être un précieux auxiliaire pour atteindre la vérité tout entière, c'est-à-dire Dieu lui-même. C'est ce qu'on ne cesse de dire depuis hier après-midi. Et pour que la philosophie puisse jouer ce rôle, il convient qu'elle soit indépendante et autonome et qu'elle puisse fonctionner selon ses méthodes et ses règles propres. Au paragraphe 49, Jean-Paul II dit que l'Église ne propose pas sa propre philosophie ni ne canonise une quelconque philosophie particulière au détriment des autres. Et nous pouvons illustrer cela par l'exemple d'Edith Stein. Excusez-moi, mais d'ailleurs Jean-Paul II la cite au paragraphe 74, un petit peu plus loin dans l'encyclique, mais ça clarifie les choses de donner un exemple. Alors moi je donne cet exemple que je connais un petit peu mieux. Donc la méthode du CERL, donc la phénoménologie, a conduit Edith Stein à Jésus, on en avait parlé l'année dernière, selon un processus qu'elle analyse ainsi. Donc elle disait, sa manière, la manière du CERL, hein, de renvoyer aux choses mêmes et d'apprendre à les décrire fidèlement et avec conscience, libérer la connaissance de tout orgueil et arbitraire, et mener à une attitude simple et obéissante aux choses, et finalement à un savoir humble. Une telle pédagogie a rendu beaucoup d'entre nous disponibles et impartiaux pour la vérité catholique, si bien que toute une série de ses élèves lui doivent d'avoir trouvé le chemin de l'Église. Donc c'est un exemple pour montrer comment une méthode philosophique peut conduire vers la vérité. Mais il arrive qu'à l'inverse, des doctrines de pensée aboutissent au contraire à une fermeture radicale à la révélation divine. Et ainsi, on peut dire qu'elles mettent la foi en péril. Alors dans ce cas, le service de la vérité que l'Église doit offrir au monde, comme le dit Jean-Paul II, l'oblige à réagir clairement. Car il en va du salut des hommes. Et donc c'est ce que Jean-Paul II explique dans les paragraphes suivants, 50 à 56, en survolant un petit peu l'histoire pour préciser différentes interventions du magistère dans ce domaine. C'est ce qu'on va essayer de synthétiser maintenant. Alors on peut dire que de tout temps, l'Église a exercé une nécessaire vigilance à l'égard des doctrines philosophiques présentant des éléments incompatibles avec la foi catholique. Ainsi, on peut remonter au synode de Constantinople en 543.